avec Benoît Marchal.
Bienvenue. Bienvenue pour le 96e épisode de Déclencheur.
La photo, comme vous ne l'avez jamais entendu.
Trois segments dans cet épisode, comme d'habitude. L'édito qui est consacré au rendez-vous du week-end dernier, l'enregistrement de la centième. Le deuxième segment qui est une rencontre avec Frédéric Guichard, le directeur scientifique de DX Labs. Et le troisième segment avec vos commentaires et vos réactions. Retenez dès à présent l'adresse du blog www.déclencheur.com. C'est là que vous retrouverez tous les liens de l'épisode. C'est là que vous pourrez poster un commentaire, une réaction. C'est là également que vous pourrez commander, et c'est gratuit, vos cartes promotionnelles, vos badges déclencheurs, ou enfin vous abonner. Et on supporte de nombreuses méthodes d'abonnement, y compris l'email, l'abonnement iTunes et tous les agrégateurs RSS. Premier segment, l'édito. Un seul mot pour vous raconter l'enregistrement d'hier, passionnant. Et heureux peut-être, si on en trouve un deuxième. Je crois, et tous les gens que j'ai croisés me l'ont confirmé, que c'était vraiment bien. Arnaud était en grande forme. L'équipe était vraiment bien prête. C'était formidable parce que c'était la première fois qu'on se rencontrait tous. On avait chacun travaillé dans son coin à préparer les différentes pièces dont on avait besoin ce jour-là. Et puis on s'est retrouvés tous ensemble et on a vraiment foncé. Donc je veux adresser un grand merci à toute l'équipe. Par ordre alphabétique, Baptiste, Fabien, Franck, Gérald, Laurent, Nicolas et Pascal. Un tout grand merci évidemment à Arnaud qui nous a fait confiance, aux sponsors, Miss Numérique, questionphoto.com et profilicc.com. Merci également à tous les sites qui se sont associés, qui ont relayé l'événement. De nouveau, vous avez la liste complète sur le blog. Ça vaut la peine de leur rendre une petite visite. Ce sont tous d'excellents sites pour les photographes. La salle était pleine. C'était agréable de vous rencontrer, aussi nombreux, de discuter quelques instants avec vous. Alors, l'épisode, on va pas vous le proposer tout de suite. On va attendre d'être à la centième. Puis d'abord, il va falloir le monter. Il y a quand même un petit peu de travail à ce niveau-là. Mais les photos commencent à arriver. Forcément, dans une assemblée de photographes, il y a eu pas mal d'images. Si vous avez pris des photos, d'ailleurs, n'hésitez pas à me le signaler. On rajoutera un lien sur le blog. Vous pouvez visiter simplement www.déclencheur.com et vous verrez toutes les photos de la centième. Vincent a également publié un chouette article sur questionphoto.com qui résume bien ce qui s'est passé. En attendant que le montage soit prêt, en attendant qu'on arrive au numéro 100, je vous propose quelques petits extraits sonores de ce que sera bientôt la centième. Et on a un invité tout à fait exceptionnel pour en parler, Arnaud Frige. Bonjour Arnaud.
Bonjour, bonjour à tous.
Moi j'ai un petit peu l'impression que c'est en train de devenir une espèce de phénomène de mode. Il y a les TV 16/9, il y a des appareils photo maintenant qui font du 16/9, il y a différentes choses comme ça. Donc je me dis, tiens, c'est un sujet qui a l'air de venir à la mode maintenant. Quel est ton ressenti sur ça?
En fait, depuis que je fais de la photo, moi je fais de la photo panoramique. Donc depuis l'âge de 14 ans, j'ai cette sensibilité-là. Et donc je suis toujours été étonné qu'on parle de mode, alors que moi je vois de la photo panoramique un peu partout depuis très longtemps, puisque j'y suis sensible.
Donc ça c'est la fameuse tête panoramique, alors explique-nous.
Alors voilà, c'est une tête panoramique, il y a plusieurs modèles sur le marché évidemment. Le point de vue entre une photo, quand on fait la photo de gauche et la photo de droite, on va tourner un peu sur nous-mêmes, et le problème c'est que le point de vue va légèrement changer.
Bonjour, ma question porte sur le système de réglage.
J'ai des bonnes nouvelles pour ceux qui posent des questions, parce que nos sponsors, non seulement nous ont permis de réaliser l'enregistrement ici, on les remercie, mais également ils ont décidé de vous faire divers cadeaux. On a en fait plus de 2 000 € de cadeaux qui vous sont offerts. D'abord, Profil ICC vous a offert à tous un profil ICC gratuit. Donc je sais que tu es particulièrement amateur de, et désireux d'utiliser la gestion de la couleur, donc on a l'occasion ici pour tous les participants aujourd'hui. La version en entrant, un profil ICC gratuit. Miss Numérique qui vous offre 10 €. Vous avez également reçu le bon en entrant sur votre prochain achat chez Miss Numérique. Et Question Photo qui vous offre des livres et rôles. Alors le dernier livre de Vincent, il est quelque part dans la salle, donc en plus vous pourrez le faire dédicacer. Maîtriser le Canon EOS 40D. Ce que tu voulais, je sais, surtout montrer, c'est le fait que ça va très vite, en fait. Donc,
voilà, on obtient...
C'est pas quelque chose de compliqué, lent ou quoi que ce soit.
Voilà, exactement. Et on obtient quelque chose de très satisfaisant, très rapidement.
Donc, on a deux lignes de force qu'on utilise.
On peut utiliser, pour moi, beaucoup plus facilement, et on a même intérêt à utiliser ces deux lignes de force, plutôt qu'une seule, et par exemple, se mettre en scène. Un autoportrait en panoramique, c'est pas rare de voir le photographe se mettre en scène plusieurs fois dans sa photo.
Voilà, donc vraiment un bon moment. Maintenant, on va reprendre un rythme de croisière plus raisonnable. Mais ne vous inquiétez pas, on a encore plein de bonnes idées pour le futur. Deuxième segment, on va reparler du RAW. On lit pas mal de choses sur le RAW en final dans la presse photo, dans les blogs photo, et moi j'y repère parfois un certain nombre de choses qui sont pas très précises ou pas tout à fait correctes, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens en final qui connaissent de façon intime le traitement des fichiers RAW. Vous savez, sur Déclencheur, que j'aime vous parler des sujets que je connais, et quand je ne connais pas, j'aime faire appel à un spécialiste, un expert, qui peut vraiment nous expliquer en nous entraînant au fond du sujet. Et donc j'ai beaucoup de plaisir à vous présenter cette interview, parce que je crois que c'est une rencontre avec une des équipes les plus pointues sur le traitement du RAW en France. Donc je suis chez DxO aujourd'hui avec Frédéric Guichard. Bonjour Frédéric.
Bonjour Benoît.
Tu es chef scientifique, c'est ça?
Oui, donc responsable du développement des algorithmes de traitement d'image au sein de la société.
Super. Donc moi je suis très très content d'être ici d'abord, parce que j'ai l'impression que vous êtes une des dernières sociétés françaises à faire vraiment du développement dans le domaine de l'image. Tu peux nous raconter DxO Lab, comment c'est né, et alors surtout d'où vient ce nom?
Alors c'est vrai que déjà que le monde de la photo est quand même pas mal dominé par les Japonais au niveau du hardware et par les Américains au niveau du logiciel, on va dire. Néanmoins, la France bénéficie de fortes recherches dans le domaine de l'image. La société est en fait un spin-off d'une autre société qui s'appelle Vision IQ, qui fait des produits de vision par ordinateur. Une des composantes de la vision par ordinateur, évidemment, la capture de l'image. Et pour avoir des mesures précises sur l'image, il fallait corriger les défauts des caméras de surveillance, notamment. À partir du moment où on était capable de corriger les défauts des caméras de surveillance, on s'est dit, pourquoi pas corriger les défauts des appareils photo de Monsieur Tout-le-Monde. Et donc DxO Lab, c'est parti de là. Et en fait, c'est un petit groupe d'ingénieurs de la société Vision IQ qui a fait son spin-off et a créé la société au début DxO Labs et ensuite DxO Labs. Alors d'où vient le nom? En fait, DxO Labs, c'est Digital Optique. L'idée étant de dire, l'optique, ça sert à en projeter le monde sur l'image. Et l'idée étant de dire, on peut pas tout demander à l'optique, sinon on va avoir des optiques très chères et très lourdes. On va demander au traitement numérique de faire une partie de la correction de ces défauts, d'où la notion de digital optique, qui était de dire on va transférer une partie du monde de l'optique au monde du numérique.
Et le X au milieu? Moi, j'ai fait une pari avec un ami, c'était parce que c'était le nom de domaine qui était libre.
Non. Non, on a dû le racheter d'ailleurs. Mais X, ça faisait un peu mystérieux, scientifique.
Moderne.
Et aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés qui mettent un X pour donner un aspect scientifique aux choses.
Alors, on est là surtout pour parler la dérotisation. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer la chaîne qui se passe une fois qu'on a transféré sa carte sur le Mac? Qu'est-ce que va faire le logiciel de traitement RAW?
Alors, donc, en fait, la même idée qui est de dire on peut transférer de l'optique vers le numérique, elle s'est passée dans le domaine du capteur, il y a de ça quand même quelques dizaines d'années, où on est passé des tri CCD, c'est-à-dire trois capteurs, un pour chaque couleur, à un capteur unique avec une mosaïque, type celle de Bayer, qui est le monsieur qui a inventé une mosaïque et celle couramment utilisée aujourd'hui par la plupart des appareils photo. Donc je ne sais pas si tout le monde sait à quoi elle correspond, mais en gros c'est un pattern, un motif qui se répète de 2 par 2 pixels, dans lequel il y a 2 pixels verts, un pixel bleu et un pixel rouge. Quand j'entends un pixel vert, c'est un pixel qui va répondre à la lumière verte, un pixel bleu, un pixel qui va répondre à la lumière bleue. Donc chaque pixel est spécialisé sur une couleur. Et malgré tout, sur l'image finale, il faut que chaque pixel contienne les 3 informations de couleur, rouge, vert et bleu. Donc la première opération que doit faire un RAW converteur va être de retrouver les informations manquantes, c'est-à-dire passer d'une information de couleur par pixel aux 3 informations de couleur par pixel. Donc ça s'appelle le dématrissage. Si on est passé d'une mosaïque, une information par pixel, à l'image finale où il y a les 3 composantes de couleur par pixel. Au-delà de ça, il y a d'autres opérations qui doivent être faites. Alors, une autre opération est le changement d'espace couleur. Alors, il se trouve que les capteurs ne voient pas les couleurs comme le voit l'œil humain. En fait, ils sont un peu daltoniens, on peut dire. Mmh. En fait, la réponse au spectre de la lumière est différente. Alors, pour des raisons de coût, d'une part, et pour des raisons de complexité aussi, parce que le système visuel humain est très compliqué en ce regard. Donc ça a été simplifié, et lorsque on dit qu'un capteur voit du bleu, en fait il voit un mélange de bleu, de vert, même de rouge. Il voit donc les couleurs différemment, il va falloir changer d'espace couleur, passer de l'espace couleur propre au capteur à un espace couleur, disons, commun, par exemple sRGB ou Adobe RGB ou n'importe quel espace couramment utilisé. Autre aspect est de la neutralisation de l'illuminant. Alors ça, c'est quelque chose que l'œil fait naturellement et on ne se rend même pas compte. Mais en fait, Lorsqu'on est en intérieur, par exemple, on va être éclairé souvent par des lampes en tungstène, qui sont des lampes jaunes, hein, c'est nos lampes habituelles, et la lumière est jaune. Hein. Malgré tout, les murs blancs, on les voit blancs. Et ça, c'est parce que l'œil a neutralisé le luminant qui était jaune, il l'a remis vers le blanc. De la même façon, en extérieur, on a plutôt une lumière qui est bleue, hein, qui est liée à l'atmosphère, et un mur blanc en extérieur va être vu comme blanc par l'œil, alors qu'il est bleu, hein, et il reflète le ciel. Donc cette adaptation chromatique, elle se fait naturellement, au niveau de l'œil. Alors l'appareil va devoir la faire, pourquoi ? Parce que lorsqu'il va restituer l'image, l'image va être observée par l'œil, non pas dans son environnement d'illumination naturel, enfin dans lequel l'image a été prise, mais dans l'environnement d'illumination dans lequel on regarde l'image. Et donc l'œil fait son adaptation chromatique à l'environnement, par exemple dans le bureau ou à la maison quand on regarde l'écran, et non pas vis-à-vis de la lumière qui avait lieu lors de la prise de vue. Et ça, c'est aussi une des étapes de la reconversion, qui est de déterminer l'illuminant principal de la scène et de le neutraliser.
D'accord. Les étapes suivantes ?
Alors, si on remonte le temps, donc il y a, en fait, les capteurs aujourd'hui peuvent présenter un certain nombre de défauts qui vont devoir être corrigés. Donc il y a des défauts liés à la non-linéarité de la réponse du capteur à la lumière. Alors, c'est un apprentissage qui est fait sur le capteur, qui dit, ben, voilà, le capteur il se comporte comme ça, avec une telle courbe par rapport à la lumière.
En termes simples, non-linéarité du capteur, ça veut dire quoi ?
Ben, si le capteur reçoit deux fois plus de photons, il est censé donner une réponse deux fois plus grande. Un niveau de grille deux fois plus grand en roue, hein, dans un espace linéaire. Ben, c'est pas toujours le cas, ça dépend des capteurs, et ça c'est quelque chose qui doit être appris pour être compensé.
Ça se rapproche un peu de la non-réciprocité qu'on trouvait sur les films, ou ça n'a rien à voir ?
Chaque film a aussi une réponse non-linéaire par rapport à la lumière, mais en soi, là, ça faisait partie du rendu du film, c'est-à-dire que c'était aussi quelque chose qui pouvait être travaillé par les fabricants de films pour avoir des rendus plus ou moins contrastés, plus ou moins agressifs. Alors que dans le capteur, les aspects rendus, aujourd'hui, ne sont plus, on va le voir après, sont plus déportés dans la partie logicielle, qui peut être embarquée dans l'appareil photo, mais dans la partie traitement numérique, plutôt qu'au niveau du capteur. Le capteur, il doit refléter la réalité. Si j'ai deux fois plus de photons, il doit répondre deux fois plus fort. Tous les aspects rendus doivent être déportés ensuite. C'est la tendance. Donc, première étape, c'est de linéariser le capteur. Ensuite, il y a un certain nombre de défauts qui sont des bruits de ligne, des bruits de colonne, qui sont liés aux architectures des capteurs et surtout à la miniaturisation des pixels. Donc, ce sont des défauts de bruit, mais des bruits structurés qui vont être compensés. Alors, plus les pixels sont petits, plus c'est présent. Donc, on verra pas trop ce genre de défauts dans les réflexes avec des gros formats, enfin, des capteurs 24-36. Mais dès qu'on tape dans le moyen de gamme, on a ce genre de problème. Ensuite, la balance des blancs doit être appliquée. Alors, la balance des blancs, c'est l'adaptation chromatique. Après, à cette étape-là, il y a des variantes selon les méthodes de dérotisation. Donc, il n'y a pas un chemin unique. Hein, chaque constructeur a pu définir son chemin. Donc, je ne vais pas les donner dans l'ordre à cause de ça. On a l'étape de dématrissage qui va consister, à partir d'une information par pixel, à recréer les trois informations de couleur. Il y a des étapes de débruitage, qui peut être plus ou moins simultané avec cette étape de dématrissage. Bon, bah, tous les capteurs ont du bruit, donc on peut le réduire à partir d'algorithmes de débruitage. À l'issue de ça, on a une image qui est dans un espace couleur qui est toujours celui du capteur. Donc pour chaque pixel, j'ai les trois composants de couleur et je suis linéaire, c'est-à-dire si j'ai reçu deux fois plus de photons, j'ai une valeur deux fois plus grande. Alors, à partir de là, on va faire le changement d'espace couleur. Et en même temps, souvent, est fait aussi l'aspect rendu colorimétrique qui est propre à chaque constructeur d'appareil photo ou à chaque dérotiseur. Donc là, on se rapproche de l'aspect film. Chaque film était travaillé en couleur et en contraste pour tel et tel effet. On va retrouver la même chose au niveau du changement d'espace couleur. C'est-à-dire, le changement d'espace couleur a deux fonctions. La première fonction, c'est de se ramener de l'espace couleur du capteur un peu daltonien à un espace couleur donné, par exemple sRGB ou Adobe RGB ou Profoto. Et de rajouter aussi, en même temps, un aspect rendu couleur, rendu contraste particulier qui va peut-être faire la touche de chaque constructeur. Donc, on voit bien, les couleurs chez Nikon sont différentes des couleurs de chez Canon. Alors, ça peut être en partie lié au fait que les capteurs Nikon et Canon sont différents, donc ne voient pas exactement les choses de la même façon, mais une grosse partie de la raison est aussi que Canon et Nikon ont fait des choix de rendu très différents en termes de couleur et de contraste.
Mais c'est même vrai d'un logiciel de dérotisation à l'autre, en fait.
Alors exactement, donc chaque logiciel de reconversion peut avoir fait un choix différentes de rendu. Et si on prend l'exemple de notre logiciel Optics Pro, en fait, on propose à l'utilisateur le fait de faire un rendu fidèle, c'est-à-dire, et ça serait le rendu sans rajout de look, on va dire couleur ou contraste. On propose aussi de reproduire le rendu du constructeur, dans lequel on a en fait calibré le choix du constructeur en termes de couleur et de contraste. On propose aussi à l'utilisateur le fait de choisir, par exemple s'il a un Canon 300D, choisir le rendu d'un Nikon D200 par exemple, parce qu'on a aussi calibré le rendu d'une Nikon D200, et donc l'utilisateur peut ainsi retrouver des couleurs et le choix de colorimétrie qu'a fait Nikon avec son appareil Canon.
En fait, il n'y a pas de bon choix. Un petit peu comme avec le film, comme je disais tout à l'heure, il y a des films qui ne convenaient pas à certains sujets, mais le choix du film était aussi quelque part participant dans la construction artistique de son image. C'était un choix du photographe pour...
Exactement. Donc, il n'y a pas de bon choix, parce qu'on est vraiment dans le subjectif. En fait, dans certains cas, il peut y avoir un bon choix. Si on prend l'exemple d'un photographe qui va faire des photos pour de la pub, où là, il va vouloir avoir exactement la couleur de l'objet. Là, il faut qu'il fasse un rendu fidèle et pas qu'il passe sur des modes rendus Canon, Nikon ou autre. Mais inversement, le photographe qui va plus chercher, disons, une qualité visuelle de la photo, sera pas du tout convaincu par le rendu fidèle, qui va trouver un peu fade, va plutôt jouer sur un aspect artistique avec tel ou tel rendu. Et on voit bien, il y a les Nikoniens qui préfèrent le rendu couleur Nikon et les Canonistes qui préfèrent le rendu couleur Canon. Et je pense que ce sera difficile de les mettre d'accord.
En même temps que le fait que les rendus vont être différents d'une marque à l'autre, il y a aussi ce qui est souvent présenté comme un des gros inconvénients du RAW, les formats sont fermés. Les grandes marques, en final, ferment leur système. Et pire, enfin pire de mon point de vue, le présentent comme étant un argument positif et commercial, en disant « oui, mais c'est bien, vous avez toute la chaîne chez nous, etc. » J'imagine que vous n'avez pas la même opinion ici chez DxPro pour des raisons assez logiques, mais quel est ton sentiment sur ce phénomène-là?
Alors, il est clair que pour nous, c'est un problème. C'est-à-dire qu'on doit, pour pouvoir dérotiser une image, avoir accès aux informations qui sont rangées dans cette image. Je pense qu'on voit apparaître il y a quand même une lutte entre le Japon et l'Amérique, hein. Entre, disons, les constructeurs d'un côté et les gros éditeurs logiciels de l'autre, sur un peu la prise de pouvoir du monde de la photo. Et une façon de se protéger du côté des constructeurs, c'est de protéger leur format, ce qui met des bâtons dans les roues aux gros éditeurs de logiciels, certes, mais aussi aux petits comme nous. Et d'un autre côté, le gros éditeur de logiciels, lui, va essayer d'imposer son format aux constructeurs pour un peu dominer ce monde-là.
Mais de votre point de vue, son format, il est entre guillemets meilleur, ou en final c'est aussi un autre format propriétaire mais détenu par quelqu'un d'autre?
Alors, l'idée d'avoir un format unique est bien en soi. La limite à ça, c'est qu'il faut veiller à ne pas freiner l'innovation, parce qu'à partir du moment où on a défini un format, il faut qu'il soit ouvert aux évolutions. Les évolutions sont souvent, dans les premières années, un peu masquées pour éviter que les concurrents fassent de même. Donc il faut trouver le bon équilibre entre une partie, disons, complètement publique et une partie qui resterait quand même un peu du domaine privé pour que l'évolution puisse avoir lieu. Donc ça, c'est un aspect. Alors, quant au format DNG, est-ce que c'est une bonne idée? Ça part d'un bon sentiment, on va dire, a priori. Mais le DNG n'est pas équivalent au RAW aujourd'hui. C'est-à-dire que toutes les informations qui sont dans les images RAW ne se retrouvent pas dans le DNG. D'ailleurs, Adobe le dit lui-même, au sens, il suggère aux utilisateurs du format DNG de conserver les RAW d'origine. Et en gros, il y a de la perte d'informations lorsqu'on passe du RAW au DNG. Enfin, en tout cas, il n'y a rien qui garantit que, dans tous les cas, le DNG contient toute l'information qui était présente dans le RAW. C'est embêtant, c'est-à-dire que tant que Adobe et les constructeurs ne sont pas mis d'accord et ne travaillent pas la main dans la main sur un format, on a ce risque de perdre d'informations. Et quant à garder d'un côté les images RAW et d'un autre côté aussi, en même temps, leur version DNG, il n'y a pas grand intérêt. Donc voilà. Alors, il faut quand même dire que les constructeurs ne cachent pas tout dans leurs images RAW, on arrive à les décrypter. C'est vrai qu'il y a un certain nombre d'informations comme la distance de focus, qui est une information qui est souvent cachée à l'intérieur. Elle est présente, mais elle est cryptée. Donc c'est dommage, parce que par exemple pour nous, l'information de la distance objet, la distance de focus, est importante pour bien corriger les distorsions. Et elle est souvent cachée, donc on arrive dans la plupart des cas à décrypter cette information, et dans quelques cas, on n'arrive pas, et on est obligé de demander à l'utilisateur de préciser la distance objet. Donc, mais moi, ce que je vois dans l'intérêt du RAW, et d'aller éventuellement à un format unique, un RAW, avec la réserve que je mettais sur l'innovation tout à l'heure, c'est qu'en shootant en RAW aujourd'hui, on achète en fait potentiellement la technologie de demain, et On voit de grosses différences de qualité entre les reconverteurs sur le marché aujourd'hui. Et chacun des éditeurs de reconverteurs évolue dans leur technologie et autres. Et c'est une technologie qui va continuer à évoluer sur les années à venir. Or, si j'ai shooté avec un appareil, un réflexe, des RAW il y a 3 ou 4 ans, rien ne m'empêche de les dérotiser aujourd'hui ou de les dérotiser dans 10 ans et j'aurai des résultats différents et j'espère meilleurs évidemment. Donc en ayant shooté des images il y a 4 ans en RAW, je serai capable d'appliquer la technologie dedans peut-être dans 10 ans sur ces images et donc de bénéficier de la meilleure qualité d'image possible.
Pour revenir sur le traitement de l'image, tu as parlé de l'espace linéaire. Tu peux nous expliquer pourquoi les capteurs sont dans cet espace linéaire et pourquoi il faut convertir à partir de là ?
La plupart des capteurs sont effectivement dans l'espace linéaire, mais ce n'est pas le cas de tous les capteurs. Il y a des capteurs qui ont d'autres représentations de l'énergie photonique reçue. En fait, dans la construction disons, des espaces colorimétriques, avec un comité de standardisation, c'est le CIE qui date depuis un siècle maintenant.
Le mot de lab dans Photoshop.
Voilà. Et a été défini un espace couleur qu'on appelle XYZ, qui est un espace, disons, couleur un peu virtuel, mais qui sert de référence à tous les espaces couleurs. C'est-à-dire que tout espace couleur comme sRGB, Adobe RGB et autres vont être définis comme relativement à cet espace couleur XYZ. Qu'est-ce que ça peut être défini relativement? C'est-à-dire qu'on va définir la transformation qui passe de l'espace couleur XYZ à l'espace couleur qu'on cherche à définir. L'espace XYZ est linéaire, en fait, par définition. C'est-à-dire que si j'ai reçu deux fois plus de photons, en fait, XYZ vont être deux fois plus grands.
Voilà. Pour ramener ça en termes photo, deux fois plus de photons, c'est un diaphragme ouvert en plus.
C'est un diaphragme ouvert en plus. Voilà. Ce qui n'est pas le cas des espaces sRGB ou Adobe RGB, qui ne sont pas des espaces linéaires, qui sont des espaces non linéaires. En fait, il y a une sorte de gamma, une courbe, entre l'espace linéaire et ces espaces-là. Alors pourquoi ils ne sont pas linéaires? En fait, c'est vraiment historique. C'est lié aux anciennes télévisions, hein, qui n'avaient pas une réponse en fait, linéaire au voltage, enfin à l'intensité du courant. Et donc, pour afficher une image correctement sur l'espace téléviseur à l'époque, on appliquait un gamma inverse à la tension en amont. Et donc, les données étaient directement codées avec ce gamma inverse. Et ben, de là est né en fait, les espaces couleurs comme sRGB. On prenait en compte la non-linéarité du tube cathodique, on va dire, par rapport à la tension électrique. Aujourd'hui, c'est dommage, parce qu'en soi, on est passé la plupart du temps avec des écrans LCD ou des écrans plasma, qui, eux, sont plutôt linéaires. Enfin, en tout cas, les LCD, les plasmas, c'est une technologie vraiment différente. Et donc, en fait, l'écran LCD va recevoir l'image sous forme sRGB, qui est le standard dans le monde des PC, et donc avec cette courbe, hein, de non-linéarité par rapport à la lumière. Et la première chose que va faire le LCD, c'est d'inverser cette courbe pour afficher l'image.
D'accord.
Donc, en fait, c'est purement historique que le fait que sRGB, Adobe RGB ait une courbe de non-linéarité. Alors maintenant, le problème, c'est que effectivement, c'est purement historique, mais on ne va pas revenir en arrière pour autant pour effacer ça, vu le nombre d'écrans qui sont installés sur la planète.
D'accord. On l'a dit tout à l'heure, les RAW converteurs ne sont pas tous identiques. Qu'est-ce que vous voyez, vous, chez DxO, comme étant l'évolution sur ce traitement-là?
Il y a deux classes de tendance. Hein. Donc, une classe qui est uniquement sur la reconversion stricto sensu. Donc, si on regarde sur les quelques dernières années, on voit une grosse amélioration des RAW converteurs sur la reconstitution des détails. En fait, la mosaïque de Meyer, qui est utilisée dans la plupart des capteurs aujourd'hui, donc chaque pixel est spécialisé en couleur, et malgré tout, à la fin, il faut reconstruire les trois composants de couleur. Le problème, c'est qu'il faut recréer de l'information. Il y a plusieurs reconstructions possibles, parce qu'il n'y a pas unicité, il faut recréer de l'information. Les RAW converteurs peuvent plus ou moins choisir la bonne reconstruction, en fait. Alors, un exemple typique, c'est lorsqu'on va regarder des très hautes fréquences, c'est-à-dire des fréquences qui vont approcher la limite de ce qui est capable de représenter le capteur, on va voir souvent ce qu'on appelle un aliasing coloré, c'est-à-dire la fréquence va changer de direction et va se colorer. Donc ça donne des taches de couleur.
Sur les vêtements à carreaux, etc. Voilà, on le voit systématiquement.
Oui, c'est le moiré qu'on voyait à la télé dans les images à carreaux. Bah, c'est ça, il y a l'information manquante. Néanmoins, il faut reconstruire quelque chose et des fois, on se trompe. Alors, la télé, ça se voit plus parce que la plupart des caméras sont des tri CCD, donc ont les trois informations nécessaires. Ou alors capture en plus haute résolution. Donc c'est un phénomène qui se voit plus, mais dans la photo, ça se voit. La tendance a été de mettre des a priori sur l'image et de dire, quand j'ai le choix entre plusieurs reconstructions, je vais choisir la moins colorée. où on a souvent un monde plutôt vertical. Donc je choisis, voilà, exactement. Donc quand je sais pas quoi choisir en direction, plutôt choisir la direction verticale. Donc il y a des a priori comme ça qui ont été mis, mais néanmoins il y a souvent des cas d'échec qui apparaissent. Donc là, un exemple d'amélioration que nous on apportait, qui est de dire, en fait, ces zones ambiguës, là où on sait pas reconstruire, elles sont localisées dans l'image. C'est pas partout qu'on sait pas reconstruire. Et autour de ces zones, il y a des zones où on sait reconstruire. Et donc on va reconstruire les zones où il manque l'information, où on sait pas reconstruire, à partir de qu'est-ce qui a été reconstruit dans les zones où il n'y avait pas d'ambiguïté, en fait. Et donc, c'est l'image elle-même qui va servir de modèle, d'a priori, sur la reconstruction à faire. Alors, un autre exemple d'amélioration sur le dématrissage, c'est la prise en compte du bruit. Un des gros problèmes du numérique, c'est de faire apparaître un pattern de bruit, une sorte de grain de bruit qui n'est pas du tout
le bruit n'est pas
joli
esthétique.
Et n'est pas esthétique. Contrairement, disons, à la chimie d'antan, il n'a pas été travaillé. En fait, il est résultat, ce grain est en fait le résultat des traitements numériques qui sont faits lors de la reconversion. En fait, sur le capteur, bon, à part quelques bruits de structure, de lignes, de connexion, etc., on a un bruit qui est relativement blanc, c'est-à-dire que le bruit sur chaque pixel est indépendant d'un pixel à l'autre. Donc c'est un bruit très très fin, et c'est la reconstruction de l'image, le dématrissage et les autres filtres qui sont appliqués, qui vont structurer ce bruit, en faire un pâté, ce qu'on appelle le grain numérique. Et donc le fait de maintenant mettre le débruitage au moment du dématrissage, ça permet d'éviter de créer ce grain, et de conserver sur l'image finale un grain qui est toujours de l'ordre du pixel, et qui est beaucoup plus plaisant à l'œil. Et ça, c'est vraiment une des améliorations qu'on apporte, notamment dans la version 5, qui est de proposer, même à très très fort ISO, un grain qui est de l'ordre du pixel. Donc on retrouve un peu des looks du temps de l'argentique pour des pellicules à faible bruit.
D'accord.
Donc ça, c'est une classe, disons, d'amélioration. Ouais. L'autre classe d'amélioration, c'est en gros la tendance un peu de toute l'industrie, c'est de dire la reconversion, qui est en gros pour objectif de compenser les défauts du capteur, le daltonisme, entre guillemets, du capteur, le fait qu'il ne voit pas les trois couleurs en chaque point, elle doit aussi compenser globalement les défauts de l'appareil. Et donc, il faut, au moment de la reconversion, faire les corrections, notamment de l'optique. Donc, c'est ce qu'on fait, évidemment, dans Optix Pro, c'est la raison d'Optix Pro depuis quelques années. Et ce qu'on voit, c'est que c'est une tendance de l'industrie d'aller dans ce sens-là. Et donc, aujourd'hui, il est normal qu'un reconverteur fasse aussi ce genre de correction.
Ok, écoute, Frédéric, merci beaucoup pour ton temps et pour toutes ces explications. Je trouve ça vraiment très intéressant.
Benoît, je te remercie déjà de l'invitation. C'est avec grand plaisir, je pourrais parler des sujets qui intéressent tes interlocuteurs quand tu veux.
Merci.
Troisième segment, vos commentaires et vos réactions. Vous pouvez laisser un commentaire texte qui est complètement gratuit en visitant le blog www.déclencheur.com. Vous pouvez également utiliser une boîte vocale pour laisser un commentaire vocal. D'abord, quelques messages d'encouragement reçus de la part de Damien S. de El Mariachi. Pas mal de commentaires également d'auditeurs habitués qui partagent leur pratique de la photo. Je pense notamment à Fabien, Franck Doyen, Sébastien Demars et Antoine Magnier. Merci à vous tous. Tout d'abord, trois commentaires de Philippe Delettré, de Jacques et de JPJ sur le format du podcast lui-même. Philippe demandant si on ne pourrait pas séparer les trois segments pour pouvoir réécouter uniquement le segment qui intéresse dans un mag. Jacques posant une question à relayer à l'équipe de DxO et JPJ demandant « Tiens, est-ce qu'on pourrait faire un sujet sur les papiers pour imprimantes ?» Pour la question de Philippe, c'est-à-dire séparer les trois segments d'un mag, c'est vrai que depuis qu'on a les dios, je me pose vraiment des questions sur l'utilité des éditos et je me demande si je pourrais pas tout simplement les déplacer dans les dios. J'ai pas tellement envie par contre de séparer les commentaires parce que je trouve qu'ils font partie intégrante de l'intérêt d'un mag. Quant à Jacques qui souhaitait poser une question très précise à l'équipe de DxO sur le support de l'Alpha 700, ce qu'il faut savoir, c'est que les interviews sont souvent enregistrées un mois et demi à deux mois avant leur diffusion. Donc en fait, quand les questions arrivent, il est trop tard. Quant à JPJ qui m'interroge sur les papiers jets d'encre, bonne nouvelle, il y a trois semaines maintenant, j'ai enregistré une interview avec le responsable commercial de CIL. Moi, j'ai appris énormément sur cette interview et sur des sujets auxquels je ne m'attendais absolument pas. J'espère pouvoir la monter et vous la proposer très bientôt. De façon plus générale, je réfléchis à un moyen de vous donner plus d'accès à ce qui se passe dans la production de déclencheurs, pour vous permettre effectivement de remonter plutôt vos questions, pour vous avertir des épisodes qui sont en préparation. Je pense qu'on verra des résultats en 2008. Toujours sur ce Mac consacré au format de fichier, Gabs attire notre attention sur une info qu'il a reprise sur Virus Photo, mais qu'on a trouvé sur pas mal de sites photo. Firefox version 3 supportera les profils de couleurs. Mais là, j'ai l'impression, Gabs, que tu me tends une perche tellement énorme que je ne peux pas résister à la saisir. Safari, le navigateur du Mac, gère les profils de couleurs depuis la version 1. Je crois même qu'Internet Explorer sur Mac gérait les profils couleurs. Alors désolé, tout en reconnaissant que ça va ouvrir la technique à plus de personnes, j'arrive pas à m'enthousiasmer sur le fait que Firefox 3 récupère 5 ans de retard. Le même gap se fait remarquer que de plus en plus de périphériques s'annoncent comme étant wide gamut et travaillent sur des profondeurs de couleurs en 12 bits, en 14 bits, en 16 bits. Donc on peut espérer voir une évolution à ce niveau-là. C'est tout à fait correct, mais c'est un frémissement pour le moment. Et en particulier au niveau des imprimantes jet d'encre, ce qui correspond à une question qu'il pose, aujourd'hui, il n'y a pas d'imprimante, il n'y a pas d'écran non plus d'ailleurs, qui sont capables d'imprimer au-delà de l'Adobe 98. Donc clairement, quand on travaille dans des espaces de couleurs plus larges comme Profoto, on fait un pari sur l'avenir. Si on veut optimiser pour le matériel actuel, c'est effectivement pas ces espaces de travail-là qu'il faut choisir. Il rapporte également de mauvaises expériences quand il a fait réaliser des tirages offset. Ça, je crois que n'importe qui a visité une exposition, qui a comparé le catalogue, les tirages sur le catalogue avec les tirages au mur, n'a pu que constater que l'offset n'était pas la meilleure technologie pour le rendu de couleur ou le rendu de l'image. Le but de l'offset, c'est des plus gros volumes à plus faible coût. Sylvain nous reproche dans ce même épisode sur les formats de fichiers de ne parler que de logiciels propriétaires, alors qu'on insiste par ailleurs sur l'utilisation de formats libres. Deux éléments de réaction. Un, on a pour d'autres épisodes traité de logiciels libres. Deuxièmement, je crois qu'il y a un vrai malentendu, on n'a peut-être pas été assez clair. La discussion sur les formats libres, formats ouverts, elle est vraiment dans le contexte de l'archivage. Et ce qui est important dans ce contexte-là, c'est simplement d'avoir un format qui soit ouvert au sens où il est lisible par tous, quitte à devoir prendre une licence. Donc un format qui ne soit pas libre au sens du libre est tout à fait acceptable pour de l'archivage, à condition que ces spécifications soient disponibles. Et vraiment, le libre est un concept intéressant, mais il va au-delà de ce qui est nécessaire pour l'archivage. Grolier souhaiterait compléter cet épisode par des informations spécifiques sur l'archivage. Je rappelle qu'il y a un épisode dédié à l'archivage qui date d'août 2006. Toujours sur cette question de pouvoir exploiter ces photos dans le futur, et en particulier la possibilité de revenir sur ces RAW pour les retravailler, Jean-Michel s'interroge sur le traitement des fichiers XMP dans Lightroom. Par défaut, en effet, Lightroom enregistre les paramètres de développement et les métadonnées dans sa base de données, et donc ils ne sont pas disponibles dans un fichier XMP. Sébastien Demare lui répond, il suffit d'utiliser la base de données parce qu'elle accélère le traitement, et une fois la série de photos développée, d'enregistrer des réglages en XMP. Andéol pose deux questions concernant le format JPEG. D'abord, est-ce qu'avec une compression à 100%, il y a perte d'information? Oui, et donc si on enregistre plusieurs fois de suite à 100%, il y a perte d'information et il y a destruction de données. Sa deuxième question concerne Lightroom, est-ce qu'on peut l'utiliser pour rajouter des mots-clés dans les fichiers JPEG, et ce sans abîmer le JPEG? Je ne connais pas la réponse. Certains logiciels, et c'est le cas notamment de Photoshop, recompressent systématiquement l'image, qui entraîne malheureusement des dégradations chaque fois qu'on change un mot-clé. Je ne sais pas comment Lightroom se comporte. Jean-Michel attire notre attention sur un autre avantage du RAW, hein, qu'on n'a jamais mis effectivement en évidence dans Déclencheur jusqu'à présent, parce qu'il incite à manipuler les différents paramètres, parce qu'il permet de le faire à tête reposée et donc de comparer les résultats, le RAW a une qualité pédagogique phénoménale. Jean-Yves Gruffat répond à un commentaire de Jean-Laurent dans le dernier épisode qui interrogeait sur l'utilisation du ND, filtre de densité neutre, pour flouter des éléments en mouvement, et il explique en détail sa technique. On termine avec l'épisode sur le trépied, Franck Kahn nous recommandant un nouvel accessoire, le RedPod ou le GreenPod, un sac rempli de billes en polystyrène avec un filetage pour permettre de fixer le réflexe. Je me souviens l'avoir vu dans une publicité dans un magazine ou l'autre, mais j'ai pas eu l'occasion d'essayer. Il me reste à vous remercier de votre écoute. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner en visitant le blog www.déclencheur.com. L'abonnement à un podcast est complètement gratuit. Ça signifie simplement que vous recevez les nouveaux épisodes au fur et à mesure de leur parution. Avec le bon logiciel, vous pouvez même les récupérer immédiatement dans votre baladeur MP3 ou votre téléphone mobile pour être prêt à écouter Déclencheur le lendemain dans le métro, dans le train ou en voiture. À bientôt !